nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, c'est sous le nom de Nicolas Bourbaki, personnage imaginaire, que neuf mathématiciens décidèrent en 1935 de prendre les mathématiques à leur début et donner des démonstrations complètes. Les mathématiques, ainsi unifiées, devinrent la mathématique. Parmi les membres fondateurs de ce groupe, Henri Cartan de l'Académie des sciences. Retour sur ce moment de l'histoire des sciences à travers le témoignage et le regard de Jean-Pierre Kahn. Jean-Pierre Kahn, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au cœur de l'Institut de France, au studio de Canal Académie. Vous êtes membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'Université Paris-Sud-Orsay. Comment avez-vous connu Henri Cartan, Jean-Pierre Kahn ?
Je l'ai connu d'abord quand j'étais élève à l'École normale supérieure. Pas la première année, parce que la première année, en 1946, il avait un engagement avec Strasbourg, son université d'origine. Et quoiqu'il ait été nommé à Paris, il a passé l'année entière à Strasbourg. L'année suivante, je l'ai trouvé à l'École normale. Et l'année d'après, c'était l'un de ceux qui préparait à l'agrégation de mathématiques. Alors, c'est une face d'Henri Cartan qui n'est peut-être pas la face principale, mais je l'ai connu avant tout comme un professeur. Et c'était un professeur remarquable.
Justement, abordons la question du professeur qui a cette volonté de refonder les mathématiques. Ils sont plusieurs qui sortent de l'ENS et qui ont cette volonté de se retrouver pour fonder le groupe Bourbaki en 1935.
Oui, ça date d'avant 1935 en réalité. C'est expliqué par... Henri Cartan, avec André Veil et avec Jean Dieudonné, dans une émission qu'ils ont fait pour France Culture. Et au départ, je m'en suis entretenu avec Henri Cartan il y a juste 3 ans, n'est-ce pas ? Au départ, c'est des entretiens entre André Veil et lui. Ils n'étaient pas satisfaits du cours de calcul différentiel et intégral qu'ils avaient enseigné. Il y avait des questions qui n'étaient pas claires pour eux. Il fallait faire la lumière là-dessus, comme ils disaient, une fois pour toutes. Et ce souci de faire la lumière une fois pour toutes les amenait à une œuvre assez gigantesque, qui était de reprendre les mathématiques, comme vous l'avez dit, à partir des fondements, en donnant des démonstrations complètes et en dégageant l'idée fondamentale de Bourbaki, en dégageant les structures fondamentales. Les structures fondamentales de l'analyse.
Pourquoi avoir appelé leur groupe Bourbaki, Nicolas Bourbaki plus exactement ?
Oh, ils auraient pu l'appeler autrement. Ils ont publié d'abord une note présentée par Élie Cartan, le père d'Henri Cartan. C'était une note collective. Ils ont choisi un pseudonyme. Et Élie Cartan lui-même s'y est laissé prendre. Bourbaki est maintenant beaucoup plus connu comme mathématicien que comme général d'Empire.
Alors, on pourrait penser qu'il s'amuse un peu de cette situation, puisque dans les éléments d'histoire des mathématiques, leur traité des mathématiques est écrit en première page « Nicolas Bourbaki », qui est donc un personnage imaginaire, hein, « Nicolas Bourbaki, membre canonique de l'Académie royale de Paul Davy, grand maître de l'ordre des compacts, conservateur des uniformes ». On a l'impression que c'est limite du dadaïsme.
Oui, c'est du dadaïsme fondé sur des termes mathématiques. Par exemple, uniforme, structure uniforme, c'est ce qui apparaît dans leur traité de topologie. Et bon, ça a un sens technique. Compact a également un sens technique. Et ces notions, compact et uniforme, étaient des notions qui étaient récentes à l'époque, mais qui effectivement sont des notions tout à fait fondamentales en topologie.
En 1935, donc, effectivement, ces mathématiciens se sont réunis pendant quelques temps avant de fonder officiellement en 1935 le groupe Bourbaki.
Oui, au départ, il y a eu une réunion, ça a été le premier congrès Bourbaki à Besse-en-Chandesse, dans le Massif central. Et le groupe comprenait à ce moment-là, celui qui a été mon maître en recherche, Solem Mandelbrot, je l'ai connu comme professeur au Collège de France, il était à ce moment-là professeur à Clermont-Ferrand. Il n'était pas du clan des normaliens, lui, c'était un émigré polonais. Mais il avait déjà une forte réputation parmi les jeunes. Il était à peu près du même âge qu'Henri Cartan. Et donc, il avait arrangé cette réunion à Bessin-Chanzès. Il avait participé aux premiers travaux de Bourbaki, mais il a quitté assez vite Bourbaki. Il ne s'astreignait pas à cette discipline très austère, qui a été la discipline auxquelles se sont volontairement astreints les bourbakistes.
Est-ce que, pendant les premières années, réellement, les autres mathématiciens, les scientifiques, pensaient que Bourbaki était un être qui existait réellement, et non pas un être imaginaire ?
Ça, je n'y étais pas, alors je ne peux pas vous dire. Mais au départ, il était clandestin, Bourbaki, mais peu connu. Vous voyez, il a commencé à être connu à partir des premières publications du traité, c'est-à-dire le fascicule de théorie des ensembles et la topologie générale. La topologie générale n'était pas bien vieille quand moi je l'ai lu en étant normalien, c'était en 47 sans doute, ou en 48. Ça devait être en 48 parce que j'avais essayé de lire des ouvrages de topologie ou sur la topologie et je n'avais pas compris. Et la topologie de Bourbaki, topologie générale, est tellement claire, tellement bien construite, tellement bien rédigée, que pour le jeune que j'étais à l'époque, c'était extrêmement attrayant. Je voyais un peu à cette époque Bourbaki comme une voie nouvelle en mathématiques. Je ne m'y suis pas engagé du tout, je n'ai jamais été bourbakiste, mais c'était quand même ma vision de Bourbaki. Et maintenant, je le vois autrement. Je le vois comme un magnifique achèvement des mathématiques qui ont été produites au cours du 19e siècle et du début du 20e.
Maintenant, Bourbaki appartient à l'histoire, on n'en parle plus. Comment on explique ce déclin ?
À mon sens, ce n'est pas un déclin. Bourbaki est un classique, comme Euclide est un classique, et c'est un chef-d'œuvre.
Les bourbakistes existent encore ?
Non, non. Bourbaki s'est délité. Et ils avaient une règle, qui était une règle très spartiate, n'est-ce pas ? On abandonnait la rédaction de Bourbaki à l'âge de 50 ans. Et les bourbakistes s'y sont pliés. Et quand ils résistaient un petit peu, ils étaient poussés dehors par les jeunes. Donc, au départ, Bourbaki s'est renouvelé avec des jeunes qui étaient de qualité aussi éminente que leurs aînés. Et ça a donné les premières publications de Bourbaki qui sont effectivement éblouissantes. Et puis après ça, le propos même de Bourbaki, c'est-à-dire faire la lumière définitive sur un certain nombre de sujets, ça s'est avéré un peu illusoire.
De l'utopie ?
Oui. Alors, ça reste comme un document fondamental. Les termes introduits par Bourbaki sont des termes classiques. La méthode d'exposition de Bourbaki est une méthode qui reste absolument valable, même s'il y en a d'autres. Et puis, il y a une leçon de style, n'est-ce pas ? Ils ont forgé des termes, ça n'était jamais arbitraire. Ils ont une syntaxe, ils ont une façon de s'exprimer qui mériterait une étude littéraire.
Et vous, Jean-Pierre Kahn, pourquoi n'avez-vous pas été bourbakiste puisque, justement, vous dites que vous avez changé d'avis vis-à-vis de Bourbaki ?
Peut-être parce que je voulais voir autre chose. Peut-être parce que j'ai été attiré par la personnalité de Solheim Mandelbrot, dont je vous parlais
tout à l'heure.
Fait. Lui, c'était un explorateur de la jungle mathématique, vous voyez. Tandis que Bourbaki, pour moi, c'est l'organisateur de grands parcs à la française. Et j'apprécie énormément les grands parcs à la française, mais pour l'exploration, c'est plus amusant d'entrer dans la jungle. Et quand on arrive, instruit par les méthodes des parcs à la française, et quand on arrive à mettre un tout petit peu d'ordre dans ce qu'on voit dans la jungle, ça fait plaisir. Donc, j'ai bénéficié, disons, de Bourbaki, mais beaucoup plus que si j'avais été bourbakiste.
Il y a 3 ans, vous avez rencontré Henri Cartan. Henri Cartan est décédé en 2008, donc vous l'avez rencontré 3 ans auparavant. J'imagine que vous lui avez posé des questions vis-à-vis de Bourbaki. Et il me semble qu'il vous a parlé d'André Weil et d'un texte que l'on trouve aux archives de l'Académie des sciences, un texte d'André Weil, justement, vous en parliez au début de l'émission, un texte manuscrit, ce qui est assez rare pour André Weil, puisqu'il avait pour habitude de taper à la machine, un texte qu'il a écrit en prison. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Oui, c'est pour moi un souvenir assez émouvant, le souvenir de cette visite que j'ai rendue avec ma femme, à Henri Cartan et à sa femme et sa fille. Je venais le voir précisément parce que c'était à la veille de la célébration du centenaire d'André Weil. Je devais faire une communication sur André Weil en Inde, à Delhi, puisque André Weil avait commencé sa carrière en Inde. Et bon, j'avais naturellement une certaine connaissance des écrits généraux d'André Weil et puis de sa contribution aux mathématiques qui est tout à fait éminente. Mais la visite à Cartan, ça signifiait pour moi aller un peu à la source, avoir les souvenirs de la jeunesse. Et puis, ça me faisait plaisir de voir Henri Cartan à cette occasion. Nous avions souvent l'occasion de parler au téléphone, mais le voir, c'est autre chose. Je craignais de le fatiguer, il avait quand même beaucoup plus de 100 ans à l'époque. Mais il était très vif d'esprit, et à chacune des questions que je lui posais, par exemple sur la naissance de Bourbaki, par exemple sur l'entrée de Veil à l'École normale, par exemple sur la suite de ses relations avec André Veil, à Princeton et ailleurs, sa première réponse était uniforme. Mais je n'ai rien à dire. Et puis après un instant... Et d'ailleurs, ce que j'avais à dire, c'est écrit et vous pouvez le trouver à tel endroit. Et puis encore un instant de réflexion. Mais je peux peut-être quand même ajouter quelque chose, n'est-ce pas? Et alors là, il ajoutait des anecdotes sur les uns, sur les autres. Il m'a peu appris sur la naissance de Bourbaki, parce que là, le témoignage qu'il avait donné à France Culture...
était déjà complet.
Il était déjà assez complet. Par contre, sur André Veil, oui. Et puis... l'entretien a duré plus d'une heure. Au bout d'une heure et quart, il était temps que je m'en aille. Je me suis levé. Alors lui... Voyons, j'ai peut-être quelque chose à vous dire. Et ça, c'est tout à fait Henri Cartan, vous voyez. Tenir en réserve les choses avec une mémoire qui est quand même extraordinaire pour un homme de cet âge. Oui, en 1994... j'ai déposé à l'Académie des sciences, aux archives, un texte d'André Veil, sous une chemise où j'ai écrit de quoi il s'agissait. Et il s'agit d'un texte que André Veil m'a adressé en 1940 comme contribution au chapitre de Bourbaki sur l'intégration. Et ce texte, je l'avais, il a été regardé par Bourbaki, mais il est temps de le remettre aux archives de l'Académie des sciences, d'autant plus que c'est le seul texte, à ma connaissance, écrit par André Veil à la main. Pourquoi à la main? Parce que en 1940, quand il l'a écrit, il était en prison comme déserteur. Il n'avait pas sa machine à écrire, avec laquelle, en général, il écrivait tout. Et donc, c'est le texte qu'on connaît, ou qu'on ne connaît pas. En fait, j'ai été l'un des seuls à regarder ce texte. C'est le seul texte connu d'André Veil, où il écrit, n'est-ce pas, à la main. Alors, je l'ai vu, ce texte, et c'est extrêmement émouvant. Il y a les quelques lignes manuscrites de Cartan, et puis il y a tout le manuscrit d'André Veil. Et ce manuscrit est extrêmement intéressant parce que, d'abord, il porte la trace de l'élaboration, c'est-à-dire on voit les ratures, on voit les surcharges qu'on ne voit jamais quand c'est écrit à la machine. Mais surtout, ça a complètement changé mon optique sur la théorie de l'intégration de Bourbaki.
Mais c'était un texte fondateur de Bourbaki ou non, pas spécialement
André Veil était l'un des fondateurs de Bourbaki, mais lorsqu'il a écrit sa contribution à la théorie de l'intégration, c'était quand même plusieurs années après la naissance de Bourbaki, il y avait des jeunes qui avaient rejoint Bourbaki, et c'est, d'après les témoignages que j'ai reçus ensuite, sous l'influence des jeunes, que le chapitre sur l'intégration de Bourbaki a été écrit en récusant la position qui avait été prise par André Veil. Alors, ce texte d'André Veil appartient certainement à l'histoire des mathématiques et il n'a pas été exploité jusqu'à présent comme il convient. Il ne faut pas être technique, mais je ne le serai pas. La théorie de l'intégration en mathématiques est une théorie qui est multiforme. Vous voyez, les mathématiciens s'entendent complètement sur ce que c'est qu'une dérivation. Mais ils ne s'entendent pas sur ce que c'est qu'une intégration. Il y a plusieurs théories de l'intégration. Et il y a plusieurs manières d'aborder la théorie de l'intégration. Ça peut avoir un aspect analytique, géométrique, probabiliste. On la trouve partout, l'intégration, mais sous des angles divers. André Veil avait un point de vue. Ce point de vue n'a pas été adopté par les autres. Ça fait partie, naturellement, de la façon de travailler de Bourbaki. Il travaillait collectivement. Et puis, bon, quelquefois, le vieux, qui était André Veil, était récusé par les jeunes.
Un document donc historique?
Oui, tout à fait. Bon, je me suis étendu peut-être un peu trop sur cet épisode, mais pour moi, il est très frappant parce qu'il relie beaucoup la mémoire d'André Weil à celle d'Henri Cartan. Et il faut dire qu'ils ont été extrêmement liés tout au cours de leur existence. Comme le disait Cartan, il y a 70 ans que j'ai connu André Weil et les familles étaient très proches. Et il faut dire aussi que Henri Cartan s'intéressait aux mathématiques, c'est la moindre chose qu'on puisse dire. Il y a contribué magnifiquement, mais il s'intéressait aussi aux mathématiciens. C'est-à-dire, voyez, il s'intéressait à ses élèves. Il avait des carnets sur ses élèves, où il avait les annotations sur ses élèves pendant 70 ans. Et c'était assez fascinant.
Comment vous le saviez? Il vous l'avait dit tout simplement, qu'il tenait des carnets à jour sur ses propres élèves?
Ah ben oui, je l'ai demandé une fois.
Vous avez consulté votre propre fiche?
Pas exactement, mais il a bien voulu me remettre les insignes d'officier de la Légion d'honneur quand je les ai eus. Eh bien, il a sorti son petit carnet pour évoquer des souvenirs qui dataient justement de la période scolaire et ensuite de la période où j'étais son collègue. C'est-à-dire qu'il connaissait les mathématiciens, il connaissait les familles, vous voyez. Et je ne suis que l'un des mathématiciens dans toute la tribu mathématique. Il les connaissait, je ne peux pas dire tous, mais il connaissait le milieu mathématique mieux que personne. Et d'autre part, il y était connu, respecté par, comment dirais-je, une haute valeur morale. Même si pour moi, je ne l'ai pas suivi sur le terrain mathématique, je crois qu'il a été une référence morale pour moi.
Il me semble d'ailleurs que bientôt vous allez attribuer à Orsay, à l'université Orsay Paris Sud, le nom d'un amphithéâtre.
Pas d'un amphithéâtre. Le grand amphithéâtre de la faculté des sciences d'Orsay, où il a eu l'occasion d'opérer, où on a fêté son départ quand il a pris sa retraite en 1975. Et Henri Cartan a laissé un grand souvenir à Orsay. Il a rejoint Orsay en 1969. Mais il faut dire que jusque-là, il avait suivi de très près le développement, au moins, des mathématiques à Orsay. Il se souciait d'avoir à Orsay une bonne école mathématique. Et justement, il l'a rejointe en 1969 parce que c'était un petit peu un enfant à lui, n'est-ce pas? Et il a immédiatement été accueilli par l'ensemble de la faculté Orsay et au-delà par l'Université de Paris Sud en formation à cette époque, puisqu'il a été le premier président du conseil constitutif de l'Université de Paris Sud en 1969-70. Il a occupé beaucoup de responsabilités en France et au plan international. Il a été président de l'Union mathématique internationale. Et ce que je disais, qu'il était respecté et qu'on appréciait sa valeur morale, oui, c'était un homme à qui on aimait confier des responsabilités parce qu'on était sûr que ce n'était pas pour en tirer pouvoir ou profit, mais que c'était vraiment dans l'esprit du service qu'il rendait à la communauté.
Et ce souci de pédagogie, j'imagine, et de transmettre ses connaissances.
Alors, à Orsay, il a laissé également un très grand souvenir comme professeur. Il n'était plus jeune à l'époque, mais tous les étudiants qui ont eu la faveur d'avoir Henri Cartan comme professeur à Orsay pendant cette période en gardent un grand, grand souvenir.
Henri Cartan aussi a mené des actions pour la défense des mathématiciens injustement privés de liberté.
Oui.
Et on peut mettre en parallèle André Weil, qui justement a été, lui, fait prisonnier pendant la Seconde Guerre mondiale.
André Weil était beaucoup plus individualiste. Et Henri Cartan a été associé comme figure de proue à ce qu'on a appelé le comité des mathématiciens. Le comité des mathématiciens était en réalité trois personnes. Il y avait Henri Cartan, Laurent Schwartz et Michel Brouet. Et ils se sont préoccupés effectivement de mathématiciens qui étaient privés de liberté pour une raison ou pour une autre dans différents lieux du monde. Ça a commencé par l'Union soviétique. Et je me souviens par exemple du cas de Pliouch qui a été libéré en 1979, si je ne me trompe pas. Et puis, il se préoccupait du cas de Massera, José Massera, uruguayen, qui était dans les prisons de la dictature uruguayenne et qui était un homme très remarquable. Là, le champ s'est élargi pour Henri Cartan lorsque, à l'Académie des sciences, a été créé le CODOS, le Comité de défense des hommes de science, actuellement présidé par François Jacob. C'est une préoccupation qui a été constante de sa part.
Pour terminer ce regard, votre regard, Jean-Pierre Kahn, d'Henri Cartan et de la Fondation Bourbaki, pour revenir et pour donner quelques derniers mots sur Henri Cartan. Henri Cartan est également connu pour ses séminaires Cartan. Vous y aviez participé ?
Alors, les séminaires Cartan, à vrai dire, non. J'ai assisté au tout début du premier séminaire Cartan. Et puis, non, ça n'était pas une chose qui me séduisait. Et je n'aurais pas été capable, sans doute, de suivre et de profiter du séminaire Cartan comme les auditeurs de l'époque. Parmi les auditeurs de l'époque, il y a eu Jean-Pierre Serre, il y a eu René Thom, devenu Médaille Fields et mathématicien de tout premier plan. Ce séminaire a eu une influence très considérable pour l'éducation et pour la stimulation de jeunes mathématiciens à l'époque. Ça se tenait à l'école normale, mais il n'y avait pas seulement un public de normaliens, ça débordait de beaucoup, et par exemple, beaucoup de visiteurs étrangers fréquentaient ce séminaire. Le séminaire Cartan est une référence, pas seulement parce qu'il y a eu les auditeurs, mais parce qu'il a été rédigé. Et là, alors, quand même, j'ai consulté les rédactions du séminaire Cartan. Et Cartan est un écrivain. C'est-à-dire, il a une manière de s'exprimer en mathématiques qui est, je croyais autrefois, sèche. Non, elle est limpide et elle est resserrée. Mais c'est un modèle dans ce genre. Je pense qu'il y a une petite étude à faire, littéraire ou linguistique, du style des mathématiciens comme Cartan ou comme ceux qui l'ont influencé. Par exemple, un magnifique écrivain mathématique, c'est Jean-Pierre Serre.
Et, qui est au Collège de France.
Oui, il est retraité là maintenant, mais l'influence de Jean-Pierre Serre est immense en mathématiques. Et c'est peut-être l'héritier principal d'Henri Cartan au point de vue scientifique. Mais voilà, héritier au plan scientifique, mais peut-être aussi héritier dans l'optique, dans la méthode et dans le style. Et il y a un style dans ce qu'écrivent les bourbakistes, peut-être pas tous, mais enfin ceux auxquels je me suis référé là, qui est vraiment un modèle. Et ça restera un modèle dans l'avenir. C'est-à-dire, en mathématiques, il y a des chefs-d'œuvre. Et je pense que Bourbaki est un chef-d'œuvre et que les œuvres de certains bourbakistes, certaines œuvres d'Henri Cartan, sont effectivement des chefs-d'œuvre.
Je vous remercie, Jean-Pierre Kahn, de nous avoir donné votre témoignage, votre regard, votre point de vue sur Henri Cartan et sur Bourbaki. Vous avez parlé, et à juste titre d'ailleurs, du sujet traité par Michel Chouchan à France Culture. Je vais donner bien sûr les références complètes. L'émission en question s'appelle Profil perdu, enquête sur un mathématicien polycéphale, Bourbaki, polycéphale, puisqu'il y avait bien sûr sous ce nom Bourbaki, 9 mathématiciens. Une émission réalisée en 1990 par Michel Chouchan. Merci Jean-Pierre Kahn, et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission.